Voilà une bonne voix d'acteur, sans micro. Bonjour, enchanté. Je suis heureux. Je reçois un très bonheur et un honneur de pouvoir jouer pour vous dans cette belle salle de la chapelle cet après-midi quelques extraits de mon spectacle L'Art du Rire, titre prometteur. Vous avez raison à vous attendre, à espérer de vous amuser un peu. Et aussi, j'espère, d'apprendre quelque chose, parce qu'en effet, ce qui suit est une sorte de séminaire, une masterclass, pour dire aujourd'hui. Une masterclass publique, donc n'hésitez pas à prendre des notes, vous venez me voir après, si vous avez encore des questions. Le sujet donc de votre assise, de votre week-end, de mon spectacle, est le rire. Et les plus pertinents d'entre vous auront tout de suite remarqué qu'en ce moment, il n'y en a pas. Et le voilà déjà un peu. Et vous allez voir que je vais continuer à parler et à jouer des trucs et me comporter bizarrement. Vous allez rire de plus en plus jusqu'au moment d'arriver ensemble et ça marche toujours. Voilà, vous voyez, ça marche toujours. C'est toujours comme ça. C'était comme ça quand je l'ai fait à Paris, à New York, à Buenos Aires, à Tel Aviv, à Brétigny-sur-Orge. Et donc aussi cet après-midi, vous allez voir, à Arles, on pourrait quelque part avoir pour sous-titre Atôt le choix de rire. Une sorte de mode d'emploi, si vous voulez, avec des exercices et des conseils pour ceux ou celles qui aimeraient faire rire, qui ont déjà essayé sans grand succès, et qui aimeraient améliorer leur technique. En ce qui concerne le côté, comme déjà mentionné, multilingue, l'histoire linguistique de ce spectacle, en fait, il ne s'agit pas d'un spectacle qui avait vocation d'en être un, d'en devenir un. Ce n'est pas un spectacle que j'ai écrit et puis que j'ai cherché à traduire pour le jouer ailleurs. Non, c'est l'inverse. C'est parce que je me présentais dans différents pays et dans différents lieux et cultures avec le thème de l'humour et de la comédie que j'ai été obligé de trouver des connexions, des permanences. Et je suis arrivé à parler tout d'abord du corps et son comportement. Et voilà, on part de là, à la base. On va partir du corps, ensuite vous allez grimper dans les odeurs, les nuances, les subtilités de la linguistique. Alors, qui dit rire, dit rire. A-t-on le choix de rire? Monsieur, riez. Et c'est la madame qui rit, vous voyez. Et puis les autres. Qui dit rire, dit rieur, rieuse. Le rire est une réaction. Une personne, par exemple, qui se balade tout seul dans une forêt, qui, momentanément, distrait par un champignon, se cogne contre un arbre, ne fera rire personne. Surtout pas elle-même. Ni le champignon. Mais il va falloir rentrer, voir la famille, les copains, l'anecdote, puis l'arbre, le champignon, pour que eux, ils réagissent. En produisant un comportement corporel, vocal et respiratoire, nous appelons le rire. Et les rieurs, donc cet après-midi, c'est vous, le public. Premier conseil, si vous voulez faire un public, trouvez un public. Vous riez, mais ce n'est pas si facile que ça. Cet après-midi, c'est tout de suite gagné. Alors, tout de suite, deuxième conseil, une fois que vous l'avez trouvé, votre public, il faut le connaître. Qu'est-ce qu'un public? Qui êtes-vous? C'est quoi cette créature qui se cache dans l'obscurité en attendant d'être amusée d'ailleurs? Si vous n'avez jamais vu un public, venez ici. Il y en a juste là. Et vous restez à votre place, vous avez raison. Le public connaît sa place. Sachez que j'ai un avantage sur vous. Moi, je suis à l'aise ici et là. Vous n'êtes à l'aise que là. Néanmoins, pour des raisons purement pédagogiques, évidemment, il va falloir inviter une ou deux personnes ici sur le plateau pour m'assister avec des exercices. Et là, vous ne riez plus. Et là, vous riez tous ensemble pour la première fois. Un peu trop fort, je vous venais craindre. J'ai enlevé ces deux séquences pour cet après-midi. Ouf. Et d'ailleurs, quand je le fais dans les théâtres, j'ai déjà préparé une personne et je l'avoue au public pour vous montrer que. Si votre but est de faire rire les gens, de faire rire le public, ne commencez surtout pas par les stresser, par les inquiéter. Au départ, Mais le public est toujours là. Si le public n'est pas là, je rentre chez moi. Comment peut-on être sûr que nous seulement un public, un soir, un jour, mais le public va se mettre à rire exactement comme vous le voulez? Il faut être sûr, au départ, de partager quelque chose avec ces gens, de se connecter avec quelque chose. Et là, ça commence. Le point peut être sûr qu'on partage toujours avec n'importe quel public, n'importe où dans le monde d'ailleurs. Le corps est toujours là et chacun a un corps. On m'a dit souvent, vous faites du théâtre corporel, monsieur. Je n'ai jamais vu un comédien monter sur scène sans son corps. Alors, prenons d'abord ce corps. J'en ai un pour vous ce soir. Voilà. Un spécimen masculin. 1m 87, belge. Et ce qui est curieux avec ce corps qu'on a complètement, même avec les Belges, c'est qu'il est vertical. Peu de choses dans la nature sont verticales. L'arbre est vertical, mais l'arbre a des racines. La girafe, vous dites, mais la girafe n'a pas de racines. Elle n'a pas de racines. Et la base est plus étroite que le haut. Nous voilà un homo erectus. Sa verticalité dont il est si fier, le résultat de millions d'années d'évolution, c'est important pour nous, cette verticalité. C'est dans nos os l'histoire de notre verticalité. Au fait, nous sommes obsédés quelque part par la verticalité. Nous hissons des drapeaux, nous élevons les élèves, nous construisons des hautes tours, certains entièrement inutiles, il y en a une à Paris. Les gens viennent de partout dans le monde et ils forment des longues tours en attendant de pouvoir monter cette tour et les plus près des photos. Une fois qu'ils ont finalement monté cette tour près d'autres photos, on va comme ça. On se déplace vers un autre ville, cette fois-ci en Italie, où maintenant ils sont fascinés par un autre tour, parce que celle-ci est un tout petit peu pas. Et vous dire, vous voyez, avec les photos des copains qui vendent la satellite, je l'ai fait. L'orgueilleuse tour Eiffel, elle suscite notre admiration, tandis que la tour de Pise, elle suscite notre affection. Elle fait sourire, rien que parce qu'elle est un tout petit peu pas verticale. Notre sens des valeurs est sur une échelle verticale. Nous parlons d'être au-dessus de tout. Alles übersteigen, being above it all, grimper l'échelle sociale, climbing the social ladder, feeling low, donner un coup bas, la chute de l'empire, le paradis est dans le ciel, l'enfer est dans la terre. Et ces valeurs viennent d'eux, et sont inscrites dans ce corps, et sa verticalité. Comme on peut constater, par exemple, avec le placement de nos mains sur notre corps. Regardez. Au plus bas, il ne se passe pas grand-chose. Je me repose, j'attends, vous attendez. Ça commence ici, au niveau du bassin, à le centre de l'action. Là, je suis prêt à agir. Là, je suis prêt à faire quelque chose. On observe d'ailleurs souvent des groupes d'hommes devant un chantier, comme ça. S'ils sont prêts à participer. C'est plutôt rare de voir un groupe de dames devant un chantier, comme ça. C'est curieux, les dames ont plutôt tendance à mettre les mains comme ça chez les femmes. Peut-être parce qu'elles ont déjà travaillé. Si on monte un peu, on arrive au milieu, vous voyez, là ça change complètement, ça devient dramatique. L'inquiétude, on se tient. Peut-être il y a parmi vous encore des gens qui se rappellent ces vieux films en noir et blanc, mélodramatiques, avec ce genre de pose. Il s'agit de votre fils, madame. Mon fils, encore plus lourd, ça devient personnel, ça me concerne. Indicible, impensable, horreur. Vous voyez, plus haut les mains, plus haut le drame. C'est vrai que, par exemple, quand on voit le facteur arriver sur toi, le matin, nous ne faisons pas le facteur. Vous voyez, avec quelle facilité on obtient un rire, avec cette simple inversion des valeurs, sous l'échelle verticale. Alors, pour faire rire avec ce corps, donc, observons-le de plus près. Pourquoi nous ne tombons pas? Parce que nous avons, dans notre squelette, des points d'articulation qui nous permettent de compenser, vous voyez, comme nous sommes voit l'avant, l'autre voit l'arrière, et ainsi de suite. On le maîtrise à la fois de la courbe. J'exagère bien évidemment, mais pour se déplacer, l'être humain se sert d'un mouvement ondulatoire.
On voit quelque chose, et ce n'est que sur le retour
une importance. Nous savons que l'accès est sur le contretemps. Ça arrive à l'autre. Je peux même ajouter un troisième qui pousse un peu plus le phénomène.
Très large, de la terre, de la montagne, hein, et les démarches urbaines.
Le rire va être produit quand j'ajoute un deuxième mouvement de la tête. Je joue un deuxième temps de réaction. Dans une activité qui nécessite évidemment une certaine tension musculaire. Hein? qui nécessite un effort. Et alors, il y a deux types d'efforts. Ou bien on doit pousser quelque chose, ou on doit tirer quelque chose. On pousse quelque chose, on tire quelque chose. L'agent de police, il pousse. Le mendiant, il tire. Tirer, pousser. Il y a des choses qu'on ne peut que tirer et non pousser. Comme les cordes, la ficelle, on ne peut que s'en servir en étant sous tension. Je vis à Paris à côté d'un parc et des fois je vois la bidane avec le chien. Et quand ils tardent à suivre, elles sont obligées de le tirer parce qu'elles ne peuvent pas le pousser comme ça. Une porte, je pousse pour l'ouvrir, je tire pour la fermer. Il y a des grands efforts de tirer pousser dans le monde du sport qui résultent dans des attitudes monumentales, héroïques. Le javelin, le poignard de terre, par exemple. On s'impose en tirant et en poussant ensuite tout cela, très impressionnant, merci beaucoup, mais cela n'a fait pas rire. Le comique va arriver quand on entre en cyclotone. C'est le conflit qui fait rire. Ce n'est pas la dame qui tire le chien, mais c'est le chien qui tire la dame. La porte semble être passée. Par son équilibre, sa dignité, se mettre en toutes sortes de tensions quand on s'en tense toute la journée. Nous avons besoin régulièrement de repos, de regarder autour de vous. Parce que tout le monde, même vous sans chaise, vous vous êtes assis. Personne n'a choisi, a décidé de suivre cette performance comme ça. Pour les gens, nous avons besoin de repos. Et le repos, ça veut dire on cherche zéro gravité, on cherche un appui. Et pour cela, nous avons inventé des objets ingénieux d'ailleurs, qui nous permettent de enlever le poids des jambes sans pour autant perdre notre dignité. Mais par manque de chaises et de bancs, dans des buts, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui cherchent désespérément un point d'appui quelque part pour aller au port et se mettre sur leur valise. Sur les pots d'un copain dans le bar, sur une bicyclette dans la rue, à la maison, et on risque évidemment l'accident parce qu'on se sert de points d'appui pas très sécurisés. Regardez, ouvrons maintenant, en tout petit moment, ce grand chapitre des accidents et le rapport au commun. Pourquoi pas avec ce petit exemple? Qu'est-ce qui se passe? Je mets ma main, je fais quelque chose, je soulage, je me repose et ma main glisse. Et regardez, qu'est-ce qui se trouve dans la trajectoire de ma tête? Vous aimeriez évidemment maintenant que je me fasse mal. Attention, je ne vais pas vraiment me faire mal, je vais simuler de me faire mal. C'est très impressionnant, ça semble facile, ce ne l'est pas. Il faut quand même une certaine pratique, une certaine technique, ne rentrez pas chez vous après et dire ah, je vais te faire rire, regarde. Vous risquez de vraiment vous faire mal, et rire quand même. Donc, je triche, non? Ça produit cet effet-là. Trois réactions sont possibles. C'est curieux comment cette violence provoque le rire. La première réaction, donc, n'est pas avisée si vous voulez faire rire. C'est celle-là. C'est génial. Il y a toujours, pendant les 20 ans que je joue, il y a eu des sadiques qui rient. Et là, il n'y avait personne. C'est impossible, les futurs ne seront donc pas sadiques. Je ne peux pas me servir de cela pour en rire. Donc, évidemment, on a des sadiques pour rassurer les gens que je joue, ce n'est pas un vrai accident. Donc, deuxième réaction, beaucoup plus avisée, à la double fonction. La première, comme on l'a dit, de tout de suite rassurer, de signaler, c'est pour faire rire. Deuxièmement, de profiter de cet accident, de ce petit coup sur la tête par exemple, on a une excuse, un alibi. On n'a pas besoin de dignité pour un moment, et on en profite pour produisant un comportement loufoque qui est aléatoire, qui n'a conduit que de faire rire, le temps que ça dure. On va tenter l'expérience. Donc le public rit et continue. Le rire s'estompe avez aussi raison. Allez tout de suite arriver sur une chose. Troisième réaction, la plus juste, psychologiquement parlant, dans la vie, est celle-là. Oh. Non, ça va. Si le fait de s'être fait mal, on présente les autres devant intérieur aux autres. On l'a tous fait. On prend le pied, le genou contre un meuble. Non, c'est rien. On cherche à s'isoler. Je reviens.
Prenez par exemple un camembert.
La camembert, voilà. Le camembert est facile. Pourquoi? Parce qu'on peut s'appuyer sur son nom. Hein, on dit camembert. Et ça commence sec, ca. Depuis ramolli, camembert. Depuis cool, camembert. Le premier, j'en suis convaincu, à Arles, hein, on va tenter à incarner, en s'appuyant sur son nom, un bon camembert. Quand j'imite le fromage national, hein, qu'on trouve dans les petits magasins, qu'on a vu bien plastifié, le cheddar. C'est tout le français qui rit énormément. Ça marche mieux ici. Remarque qu'ils ne se sont pas insultés. J'ai appelé, vous constatez peut-être que vous brillez de plus en plus avec n'importe quoi. De faire cette performance inaugurale en fait, c'est moins intelligent en imitant un camembert. Nous étions obligés de faire tout ce voyage ensemble pour arriver à une seule pression pour le rire, à gagner assez d'énergie pour prendre son indépendance. On veut avec vous n'importe quoi. On veut que ça dure, vous savez ça. On veut rester là. On me dit toujours un monsieur encore en fromage.
Opus,
la limite. Le rire fort. où vous entendez le silence qui tombe. Oui, j'arrive. Toujours avec eux. Parce que je le dois à vous quand même maintenant. Après, peut-être vous aussi, pour ceux qui, en suivant mes conseils, hein, en faire rire un peu vite pour une autre petite heure, vous aurez la même responsabilité à la fin de relever un peu le niveau. Hein, pour que vous puissiez dire, oui, on a ri beaucoup, mais c'est intéressant. Hein. Donc ils arrivent pour vous dépanner, les intellectuels, les philosophes, les psychologues qui sont penchés sur les lustres, hein, qui veulent expliquer pourquoi l'homme rit. Ils n'arrivent pas, ils ne trouvent pas la clé, peut-être heureusement. Mais ils ont dit des choses intéressantes, pertinentes. Déjà Démocrite, qui d'ailleurs écrit toute une thèse sur l'hilarité, je parle de ça, évidemment, il disait que la conscience a été formée chez l'homme, lui permettre de transformer hein, la tragédie de la vie en une poésie. Un autre philosophe du XXe siècle, je suis très sérieux d'ailleurs, qui est Wittgenstein, notait que pour lui, une idée philosophique n'est pas impossible, on peut la faire comme une blague. Un autre psychanalyste a dit qu'il y a deux moments pendant notre vie dans lesquels nous oublions complètement notre mortalité. Et c'est pour l'entendre dans l'orgasme et pendant le rire. Et je partage une petite anecdote avec vous pour conclure. Je jouais ce spectacle au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Et par erreur, j'ai inversé ces deux notions. Je disais d'abord rire, puis orgasme. Donc je laissais ce public dans un silence absolu. J'avais connecté avec la mauvaise recette. Et pendant tout le spectacle, il y avait un petit garçon devant moi, assis par terre sur des coussins avec d'eau, avec des lunettes, je ne sais pas, 6-7 ans. Et avec une voix cristalline, dans ce silence total, dans une salle qui résonne très bien, il disait, c'est quoi ? Et à ce moment-là, le public a explosé pour moi, comme acteur comique, ne peut jamais espérer. C'est la vie qui me l'a offert, la chance qui me l'a offert, le meilleur rire que j'ai jamais entendu, les grands applaudissements, avec ce petit qui est autour de lui. D'ailleurs, la meilleure réponse que j'ai eue, c'était de l'enfant. Je travaillais en Angleterre, je produisais, coproduisais des séries comiques burlesques pour enfants. Et on faisait des tests des fois. On amenait des petits films et des bouts, on amenait dans des écoles différentes, dans différentes classes. Et pour le montrer une classe, il y avait une fille, 6 ans, elle riait énormément. Et je fonce vers elle, je disais, dis-moi, pourquoi tu ça te fait rire? Pourquoi tu fais comme ça? Elle s'arrête de rire. Et c'est vrai, elle s'arrête de rire, elle regarde d'un regard étonné, elle dit, mais parce que c'est drôle. Pour bien finir toujours, saupoudrer avec un peu de sentiment. Le public va partir, elle peut faire autre chose, pour ne jamais plus revenir. Cet après-midi, j'étais vous. Et un autre public sera devant moi la prochaine fois. Il se comportera comme vous, en résistance au début. Des grands moments qui l'invitent au sein, il sera attentif et silencieux, comme vous l'êtes maintenant, même enrichi hein, avec toutes ces expériences. Je vous laisse avec ça, maintenant c'est à vous d'agir. Le grand clown Charles Rivet disait, et soyons honnêtes, ça j'ai lu dans un Inside magazine de l'autre, c'est un allemand, mais je le traduis pour vous parce que sinon ça ne marche pas, je vous explique à quelle fois. Charles Rivet disait, une des dernières choses qui nous reste, qui est encore vraiment faite à la main, est l'applaudissement. Merci beaucoup. Avant, mais avec quelqu'un qui ne connaissait pas un peu tellement. Elle, c'était une actrice.
Et ça devrait être lourd, parce qu'on traduisait systématiquement. Et le soir, après, j'ai dit à Gaïa qu'il faut changer de formule. Et j'ai dit à la fille, c'est à côté de moi, sur un tabouret de bar. Et je parle vite, et tu essayes de traduire. Donc c'était comme un duel. Et on se marchait sur les pieds. C'était très ludique, très rocambolesque, mais ça fonctionnait. J'ai joué ce spectacle en Allemagne et je me vantais de connaître un peu d'allemand. Donc j'ai appris par cœur la première phrase en allemand, en les avertissant que ça n'allait pas durer longtemps. Mais j'ai reçu tout de suite un grand applaudissement. Pourquoi les gens sont toujours contents et te remercient pour faire l'effort. Une dernière anecdote, j'ai joué un autre spectacle pour jouer et en français et en anglais. C'était des fragments de théâtre de Samuel Beckett. Mais on ne s'est pas pris de beaucoup. Et on allait en tournée. Et on jouait à Hong Kong, dans le festival de Hong Kong. Et on faisait le général après-midi. Il y avait un groupe de Hong Kong, un acteur chinois, qui regardait les surtitres et dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ce que vous dites. Et on dit, bon, il y a une erreur, je ne sais pas ce qui est arrivé, on n'a pas posé de bonnes questions. Il a passé toute la nuit à faire la correction. Le lendemain, on fait une dernière répétition, le directeur de théâtre entre furieux. Qui a fait ça? Mais, parce que c'était pas le c'était traduit par un grand monsieur littéraire chinois, un professeur de littérature et de poésie. Et on a dit, même en bas, on dit, mais ça ne marche pas. Ils ont invité ce monsieur à venir, il a pris le train, une heure de là, et il est très gentil. On a dit, on lui a posé la question, pourquoi vous écrivez ces choses? C'était vraiment très bizarre, très poétique. Il disait parce que je trouve le texte très ennuyeux. J'ai voulu rendre ça plus poétique. On a téléphoné à Paris, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, vous faites avec. Donc, c'est une situation absurde. On parle en anglais, et ceux qui comprennent l'anglais comprennent tout. Et ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je crois que c'est ça qu'on dit. Ceux qui comprennent les deux ont eu une expérience complètement absurde.